On peut dire qu'au début des temps, ou plutôt même avant, c'est-à-dire quand il n'y avait pas de temps, il y a une espèce de masse indifférenciée qu'on appelle l'unité. Il n'y a pas de nom à ça, on ne sait pas ce que c'est. Le croyant appellera ça Dieu. Chacun mettra le mot qu'il veut, mais c'est immobile. Le temps ne s'écoule pas à l'intérieur. Ce n'est pas différencié. C'est seulement quelque chose qu'on ne peut évidemment pas décrire, parce que c'est l'unité. Et pour décrire quelque chose, il faut être observateur. Mais évidemment, comme il n'y a rien d'autre pour l'observer, ben, on ne peut pas, on ne pourra le décrire que quand on en est sorti. Et hélas, quand on en est sorti, on n'est plus dedans. Donc on peut dire que dans cette masse, pour une raison qu'on ignore, une bulle se crée. C'est-à-dire une bulle qui va repousser, on peut dire, ce qu'il y avait à l'extérieur. Donc maintenant, je me retrouve avec deux choses. Un rien qui repousse tout le reste. Ce tout le reste, maintenant, perd le titre d'unité et s'appelle la lumière. Et cette dépression, cette bulle vide maintenant, c'est ce qu'on appelle la matière. Donc on peut dire que la matière est une absence de lumière. Et c'est intéressant parce que c'est ce qui est dit dans les textes. On dit la matière est vide. La matière est une absence de lumière. Et c'est intéressant parce que c'est ce qui est dit dans les textes. On dit la matière est vide. Si je prends la Terre et ses habitants, vous savez qu'il y a des espaces entre les noyaux et puis dans les atomes sont creux, quoi. Donc ce qui veut dire que si je retirais l'espace qu'il y avait entre les électrons, par exemple, et les noyaux, eh bien, la Terre et ses habitants tiennent dans un dé à coudre. Ça veut pas dire que ça n'aurait pas le même poids, mais ça tient dans un dé à coudre, donc ça prend vraiment pas d'espace. Donc on peut dire que la matière, c'est comme une bulle, et qui n'existe que par la pression qui est dedans. Et que le but du jeu, ou le but de l'alchimiste, eh bien finalement, c'est de prendre n'importe quelle matière, de retirer la coquille qui empêche que la lumière qui est à l'extérieur rentre à l'intérieur. Et quand cette coquille est fendue, elle s'ouvre. Bon, pour l'homme, c'est ce qu'on appelle l'ego, par exemple. C'est-à-dire, c'est l'ego, c'est l'image, c'est notre forme. Si on est capable de faire des trous à l'intérieur de cette coquille, eh bien la lumière qui est à l'extérieur rentre à l'intérieur et la bulle disparaît sans aller ailleurs. C'est-à-dire qu'elle était vide. Et maintenant, elle se remplit de lumière. Et il n'y a plus de différence entre l'intérieur et l'extérieur. Et la matière vient de disparaître. Et le travail de l'alchimiste, c'est sans doute ça, c'est-à-dire prendre toute matière, purifier la matière, c'est-à-dire faire des trous, finalement, dans ce qu'elle est, pour que la lumière qui est à l'extérieur rentre à l'intérieur. Alors ça, c'est vraiment très intéressant, parce que ça donne à la fois une démarche physique et une démarche alchimique, parce que ça explique aussi la gravité, ça explique aussi un certain nombre de choses. Alors on peut dire que la gravité, finalement, c'est parce qu'on est sur la Terre, et étant sur la Terre, eh bien, on a un poids, mais on a un poids parce qu'on est attiré par le centre de la Terre. Bon, très bien, peut-être, bien que personne n'ait jamais démontré aujourd'hui, on démontre les effets, mais on n'a pas la moindre idée de comment fonctionne la gravité. Si on le savait, on aurait déjà inventé l'antigravité. Ça ne se produit pas. Donc on pourrait partir du postulat suivant, c'est que si on a un poids, c'est pas parce qu'on est attiré par quelque chose, mais c'est parce qu'on est repoussé par quelque chose. Si je monte sur une balance, il y a deux possibilités pour que j'ai un poids, c'est effectivement si je suis tiré, mais si quelqu'un m'appuie sur les épaules, et bien effectivement, l'aiguille de la balance bouge, donc on considère que j'ai un poids. Alors la question c'est, mais qu'est-ce qui nous appuie? Et bien selon la définition que je vous ai donnée avant, en disant que la matière c'est qu'une bulle avec de la pression dedans, et bien qu'est-ce qui appuie dessus? C'est la lumière. Donc on peut dire qu'il y a une pression de la lumière sur toute matière. Si la lumière a un but, c'est de repousser la matière pour percer sa coquille finalement, et pour remplir ce vide, pour que maintenant, eh bien, il n'y ait plus de différence entre l'intérieur et l'extérieur. Alors ça, c'est très intéressant, parce que ça veut dire que si je suis sur une planète qui est très dense, et que je suis dessus, bah, la pression de la lumière fait que j'ai un certain poids. Si je vais sur une planète plus petite, eh bien, la pression répartie est plus petite aussi, donc je suis plus léger. Quand je parle de la lumière, attention, hein, c'est pas la lumière vulgaire, sinon ça voudrait dire qu'on est plus léger dans une cave ou quand on éteint la lumière. Hein. Ce qui n'est pas le cas.
Une sorte de masse manquante, l'éther.
Alors tout à fait, alors c'est pas. Bien sûr c'est la masse manquante, mais c'est plutôt ce qu'on appelle la matière noire aujourd'hui. Pas l'énergie noire, mais c'est.
Ce qui est paradoxal pour de la lumière.
Alors c'est quand même un comble, hein. C'est qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle la lumière, ce que les alchimistes appellent la lumière, bah, c'est plutôt effectivement ce que les physiciens appellent aujourd'hui la matière noire. Parce qu'on en voit les effets, mais on ne la voit pas. Et elle manque quand même dans notre univers. C'est jamais 99% de notre univers. Et je dirais que pour avoir une image assez juste de notre univers, il faudrait faire une photo des étoiles et faire un négatif. Et si on faisait un négatif, on verrait que finalement tous les points noirs, c'est bien de la matière, et tout le reste, Et bien, c'est de la lumière. Donc il y a beaucoup plus de lumière dans notre univers que de matière. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que, fort de ce postulat, la lumière, on n'a pas à aller la chercher quelque part, puisqu'elle est partout, et qu'il y a beaucoup plus de lumière que de matière. Par contre, on passe notre vie à l'empêcher d'entrer.
Oui, mais alors, je reviens sur ce que j'ai pu lancer à dessein, parce que ce qui est très intéressant, c'est que, pour parler des maîtres éveillés, de ceux justement qui arrivent à faire passer la lumière, c'est qui arrivent à rentrer en lévitation, justement, parce qu'il y a moins de résistance, leur corps offre moins de résistance à la lumière, il n'empêche qu'ils ont toujours leur corps. Donc la lumière rentre dans la matière, mais on voit, on pourrait voir, en tout cas, toujours leur corps. Alors comment expliquer ?
Ah non, mais tout à fait, mais il y a des étapes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer qu'un corps se volatilise d'un coup. D'ailleurs, c'est le but de l'alchimiste. Hein. On dit qu'on doit transformer le plomb en or. Ça, le profane croit ça. C'est-à-dire que le transformer en or n'est qu'une étape. D'ailleurs, en hébreu, or, c'est aor, et aor, ça veut dire lumière. D'ailleurs, en hébreu, or, c'est aor, et aor, ça veut dire lumière. Donc finalement, le but du jeu, c'est de transformer ce qui est épais, ce qui est lourd, en lumière. Le profane s'arrête à l'or, mais on continue et on volatilise la matière. C'est-à-dire cette matière cesse d'exister. Mais n'empêche qu'il y a des étapes. J'oserais dire sept étapes, forcément, puisqu'on reste toujours dans notre vision de l'univers. Donc on peut dire que quelqu'un qui commence à travailler sur une voie, eh bien, se rend de moins en moins épais. À condition qu'il ne le fasse pas par vanité, bien sûr. Parce que s'il le fait par vanité, eh bien, il va renforcer son ego de plus en plus. Et donc il va faire de plus en plus obstacle à la lumière. Et donc d'ailleurs, suivre une voie par vanité, ou par pouvoir, ou par ce qu'on veut, mais qui n'est pas justement la voie, c'est commencer plus bas que si on n'avait jamais rien fait. C'est comme si on se rajoutait des couches finalement, au lieu de les faire partir. C'est pour ça qu'on dit dans la voie, quand tu la suis, qu'est-ce que tu es prêt à perdre ? La réponse c'est tout, même la forme. Mais notre forme, on y est drôlement attaché, notre forme. Hein. Puisque quand même, on n'arrête pas de dire ici, on fait des formations, il faut que tu sois conforme. Quand quelqu'un va bien, on dit, bah oui, je suis en forme. Donc notre forme, ça a vraiment d'importance. Et d'un autre côté, quand on fait des voies métaphysiques, on dit, eh ben, il faut perdre la forme. Il y a donc une ambiguïté. Alors, quelqu'un qui commence à suivre une voie, bah, il va avoir des illuminations. C'est-à-dire qu'il va créer un trou ponctuel, par exemple. Et créant un trou ponctuel, la lumière qui est à l'extérieur va rentrer à l'intérieur, et il va se sentir parfaitement bien à un moment donné. Mais ça ne veut pas dire que ça va durer. Ça peut vouloir dire que quand il va être sorti des circonstances, eh bien, ça ne va plus marcher. On peut imaginer qu'il y a des lieux aussi qui sont plus propices. Il y a des fontaines où il y a une densité de lumière qui est plus grande, un courant plus grand. Et que si je me trouve dessous, eh bien, à un moment donné, je vais avoir cette illumination.
L'horrible, horrible chose vont arriver. Elle doit arriver à toi, à toi, à toi et à toi.
D'ailleurs, à tel point, c'est qu'on n'est pas égaux dans ces lieux. Supposons qu'il y ait quelqu'un qui ait justement un égo très fort, c'est-à-dire une peau bien épaisse, une carapace bien épaisse, ce lieu va être insupportable pour lui. Parce qu'évidemment, la pression de la lumière va être beaucoup plus grande pour lui par rapport à quelqu'un qui la laisse passer. Mais ça veut dire aussi que ça peut être nous à des moments différents. Un moment dans ma vie, eh ben, j'ai eu besoin d'avoir une carapace épaisse, je peux me rendre dans n'importe quel lieu mystique, ça va être insupportable pour moi, il ne va rien se passer. Et par contre, un jour qui est parfait comme un autre où j'abandonne, là j'ouvre la porte, eh ben, ouvrant la porte, la lumière rentre. Donc je vais me sentir parfaitement bien. Alors après, est-ce que je suis capable de maintenir cet effet-là ? Et puis une fois que cet effet va être maintenu, le courant passant à travers moi, mais il va emporter des morceaux. C'est ça la solution, si je puis dire, ce n'est pas un hasard si on utilise ce terme-là. Et en portant des morceaux, je vais avoir deux réactions possibles. La première, c'est j'y suis très attaché. En y étant attaché, je vais avoir une réaction inverse en disant quelle horreur, je pars en morceaux, vite, c'est dangereux ce truc-là. C'est ce qui nous arrive quand on suit une voie initiatique pour se conforter dans sa réalité, alors que le but, on l'a vu, c'est de la dissiper, cette réalité. Ben, je vais avoir l'impression que tout s'écroule autour de moi. Je vais dire, alors je comprends rien, alors moi j'ai suivi une voie pour aller mieux, et alors c'est pire. Alors les gens que j'aimais, ils s'éloignent de moi, j'ai mal partout, je me sens mal partout. Bah oui, bah c'est normal, parce que pour se réarranger, d'abord il faut se déranger. Alors est-ce qu'on est prêt à ça ? Si je suis prêt à ça, bah oui, il y a des morceaux qui vont tomber. Et si j'accepte que ces morceaux tombent, bah oui, je vais perdre ma forme petit à petit. Et je vais me dissoudre petit à petit, ça fait pas l'ombre d'un doute. Alors est-ce que je vais encore supporter ça, ou est-ce que je vais supporter la pression de l'extérieur, les gens qui vont dire « mais t'es complètement fou, t'es pas dans la réalité, alors comment tu peux vivre maintenant, t'es évaporé, tu te fous de tout ?» Dire « bah oui, j'ai plus le même point de vue que vous, est-ce que je suis capable de faire ça ?» Alors si je suis capable de faire ça, certes, la lumière appuie de moins en moins sur moi. Et comme elle appuie de moins en moins sur moi, le poids étant la pression de la lumière, ben, j'ai plus de poids. L'éviter, c'est pas fabriquer une énergie qui contrebalance la gravité, mais c'est empêcher que la lumière appuie sur mes épaules. Et effectivement, si elle le fait pas, ben, je peux marcher sur l'eau, je peux... Alors on a des exemples, hein. On a par exemple des soufis, ils tournent autour d'une pierre, la pierre elle pèse 15 tonnes, hein. Ils se mettent tous autour, et puis tout d'un coup, ils mettent un doigt sous la pierre et ils la lèvent, avec un seul doigt. On ne peut pas imaginer qu'ils aient fabriqué une énergie capable de contrebalancer la pierre, mais par contre, on peut parfaitement imaginer qu'ils l'ont rendue transparente.
Si un homme laisse passer cette lumière, au point que effectivement il en vienne soit à plus ou moins s'évaporer, ou alors à marcher sur l'eau, ou alors donc à l'éviter, il n'en reste pas moins qu'il laisse en tout cas le soin pour son entourage, que son entourage voit son corps encore. Mais pourtant la lumière le traverse.
Non, mais il y a des étapes. C'est-à-dire que dans un premier temps, il devient transparent. C'est-à-dire que c'est comme si la lumière, comme si la matière était tissée. Hein, imaginons un tissu. Et on peut imaginer que quand la lumière rentre à l'intérieur, eh bien, le tissu devient de plus en plus lâche. Les mailles s'écartent de plus en plus. Mais il en reste des mailles. Ça veut dire qu'il va garder sa forme, mais par contre, étant de plus en plus lâche, il va avoir de moins en moins de substance. Mais ça ne veut pas dire qu'au moment où les dernières mailles lâchent, à ce moment-là, il disparaît complètement. Ah oui, alors dans un premier temps, c'est ce qu'on appelle le corps de gloire, c'est-à-dire le corps de lumière, mais dans un second temps, il n'est plus là pour le dire. C'est-à-dire qu'il s'est volatilisé, c'est bien le terme. C'est-à-dire que la matière qui était la sienne la plus dense possible, eh ben, elle n'existe plus du tout. On ne peut même pas dire qu'elle se soit décomposée, elle n'existe plus. Les mailles qu'il tissait, on peut dire aussi que, puisqu'au début tout est lumière, enfin tout est cette unité, que même la matière, que même cette bulle, eh ben, elle est tissée en fil de lumière quand même. Ce qui veut dire que la lumière, elle est quand même à l'intérieur et à l'extérieur. On pourrait juste dire que ce que j'appelle le rien à l'intérieur de la bulle, c'est peut-être seulement de la lumière qui bouge par rapport à de la lumière immobile à l'extérieur. Et on peut dire que quand elle cesse de bouger, elle cesse d'exister. Elle ne va pas ailleurs. Elle cesse tout bonnement d'exister. Donc on peut imaginer ce personnage. D'ailleurs, il y a des précédents, il y a des histoires, hein, où on dit le personnage, ce personnage s'est vaporisé, il n'y a plus rien. On n'a pas eu d'effet thermique, on peut avoir éventuellement une grande illumination ou rien, et la personne n'existe plus du tout. Mais il y a des étapes. Ça ne se produit pas du jour au lendemain, parce qu'on a nos épaisseurs. Là, il y a quand même quelque chose de remarquable, c'est qu'on sait que pour que la lumière rentre dans un corps, il faut qu'il soit rectifié, c'est-à-dire qu'il soit rendu droit, il faut d'abord qu'il soit pur, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas quelque chose qui diffracte cette lumière, qui la piège, qui la fixe, et il faut ensuite qu'il soit aligné. Et on constate que les gens qui font ces effets-là, bah c'est des gens simples, ou c'est des prophètes. C'est des gens qui sont capables soit de tout lâcher parce qu'ils n'ont jamais rien eu, soit il y a une prise de conscience, je pense à Siddhartha par exemple, à Bouddha, qui, tant qu'il est prince, il est attaché à la matière. Alors il essaye aussi par ego, par vanité, à un moment il dit, mais puisque je suis attaché à la matière, bah pour trouver la lumière ça va être très simple, il suffit que je suive une voie complètement ascétique. Mais c'est pas comme ça qu'on va faire dissoudre sa matière. Là, au contraire, on renforce son ego. Mais même si la matière devient plus maigre, ça ne veut pas dire qu'elle devient plus transparente. Elle peut être plus maigre et beaucoup plus dure, faire beaucoup plus résistance. D'ailleurs, c'est drôle parce que quand on voit les Bouddhas, ils sont plutôt grassouillets, ils sont plutôt souriants, et pourtant, ils évitent très bien. Donc, c'est pas une question de masse, hein. C'est une question de je laisse passer la lumière ou je laisse pas passer la lumière. Et à tel point, c'est qu'à un moment, dans cette voie ascétique où il ne se passe rien, il est malheureux comme tout. Hein. Il entend un joueur de violon qui dit à son élève, il dit, eh ben, si la corde n'est pas assez tendue, ça ne marche pas, puis si elle est trop tendue, elle casse. Et là, il comprend. Là, il dit, c'est la voie du milieu. Et la voie du milieu, c'est exactement les cristaux qui nous composent, qui se rectifient, qui sont rendus droits. Et dès qu'ils sont rendus droits, la lumière qui est à l'extérieur rentre à l'intérieur, et c'est l'illumination. La voie du milieu, c'est exactement les cristaux qui nous composent, qui se rectifient. Qui sont rendus droits. Et dès qu'ils sont rendus droits, la lumière qui est à l'extérieur rentre à l'intérieur, et c'est l'illumination.